Bonsoir et bienvenue à tous dans le Paris Central Show. On se retrouve aujourd'hui avec Mister Ken, qu'on a l'habitude de
Bonsoir.
retrouver dans Fort Central, et Ali qui va nous rejoindre un petit peu plus tard à cause d'un petit problème technique. On se retrouve pour ce débrief de ce Benfica PSG un petit peu spécial qu'on attendait, un petit peu difficile. Quelle conclusion tirer de ce match? C'est un petit peu compliqué à savoir. Qu'est-ce que tu penses de ça, Ken, toi, pour commencer?
Non, c'est un match qu'on attendait. Je pense que c'est mis à part lorsqu'on voit au niveau de la date de poule, pardon, de la date du tirage de tirage au sort des poules. Excuse-moi, j'ai perdu mon français. La date de tirage au sort des poules. C'est vrai qu'on s'attendait à un PSG plus Juventus sur cette poule. Et au fur et à mesure des matchs, on a constaté qu'un Benfica était très intéressant déjà dans son championnat. Et on s'attendait vraiment à un gros match parce que moi qui regarde un peu cette équipe dans son championnat, c'est une équipe qui est vraiment bien structurée, qui est vraiment bien organisée sur un 4-2-3-1. Et qui met une énorme intensité, qui est très très habile avec le ballon. D'ailleurs, on l'a vu ce soir. Et vraiment, ça a été pour moi, voilà, le match pour moi, premier match, première étape du PSG ce soir, où on pouvait voir face à une équipe vraiment qui allait mettre de l'intensité chez elle et qui allait vraiment, voilà, tenter du moins de déstabiliser cette équipe parisienne. Donc, c'était pour moi un premier gros match du PSG, ouais, ce soir.
Et même c'est jouer à l'Estadio Andalous, c'est pas facile. On parle d'une équipe quand même qui a fait tomber Barcelone l'année dernière dans ce stade, même si c'était pas le plus grand
Liverpool,
Barcelone.
ils ont tenu Liverpool, ça a été très compliqué pour Liverpool
Le
pour se
Bayern a
qualifier.
eu du mal à gagner aussi à l'Estadio Andalous l'année dernière. Non, c'était pas une confrontation qu'on attendait facile si on connaissait un tant soit peu le Benfica. Après, je lis dans les commentaires qu'on pose la question du système. Est-ce que le système est le problème? Moi, je pense pas que le problème soit le système en soi. Pour moi, tu vois, le problème, il vient plus de l'attitude des joueurs dans la première mi-temps. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, parce qu'il y a quand même un écart assez lunaire entre la première mi-temps et cette deuxième mi-temps au niveau de l'attitude des joueurs. On ne reconnaît pas l'état d'esprit, on ne reconnaît pas l'envie, on domine complètement cette mi-temps. Qu'est-ce que tu en as pensé, Ken?
Bah, moi je pense que c'est surtout un changement de visage du Benfica où sur une première mi-temps on s'y attendait, ils allaient vraiment sauter au cou des Parisiens, ça n'a pas manqué. D'ailleurs, je n'aime pas vraiment ce gardien, mais Donnarumma fait un excellent match, faut vraiment le mentionner. Pour lui, c'est la masterclass de ce match côté parisien. Sans lui, je pense que le PSG perdait ce match. Bon, après, ce n'est que mon avis d'un point de vue extérieur. Moi, tu as dit quelque chose de très juste, tonton. C'est pas forcément le système tactique, mais les consignes qui sont demandées aux joueurs. Et moi, ça commence à me poser vraiment un gros problème sur cette équipe du PSG, où j'ai l'impression à quoi servent Mendes et Hakimi. Ce sont des latéraux, des pistons très offensifs qui sont capables vraiment d'écarter le jeu. On sait qu'avec les trois devants, c'est plutôt un jeu axial. Et justement, face à un bloc très regroupé, face à un bloc vraiment très organisé, bloc médian du Benfica, tu te dois à un moment donné d'écarter, de varier ton jeu. Parce que le PSG est devenu pour moi un peu trop lisible. Alors, ils arrivaient à se créer des occasions très dangereuses de par la qualité au-dessus de la moyenne des individualités qui composent cette équipe. Mais tu te dois à un moment donné de laisser exprimer tes pistons quand ça ne marche pas. Et on l'a vu sur les quelques rares centres des pistons, ça a amené énormément de dangers à la surface de réparation. Certes, ça n'a pas été forcément tout le temps très utilisé de la part des joueurs se trouvant sur la surface de réparation, mais néanmoins, c'est une piste qu'il faut vraiment travailler ou alors vraiment changer du côté du PSG. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un jeu trop axial et à un moment donné, tu es trop lisible et tu te heurtes face à un mur.
Ce Benfica, oui, justement, a bien résisté, était bien organisé, avait certains joueurs qui nous ont posé des problèmes. Je pense à Enzo Fernandez, le milieu de terrain, qui sort une grosse copie quand même, hein, qui met des coups comme il le faut, qui joue les bons ballons. Un milieu assez poison. Qu'est-ce que tu as pensé de ce joueur?
D'ailleurs, tonton, juste avant de rebondir sur ce que tu as dit, il y a Bronskin qui dit quelque chose de très intéressant, Bronskin 09, qui dit, mais pour centrer à qui? Et c'est vrai que la composition de cette équipe, il n'y a pas de véritable neuf. Alors, moi, je pense tu peux jouer avec un système de faux neuf, mais c'est vrai que tu n'as pas ce neuf pour varier ton jeu et pour amener un nouveau danger, tu sais, pour faire rentrer vraiment quelqu'un si ton système ne marche pas initialement, et ben tu changes ton système en faisant rentrer un neuf. Et en parlant de changement de joueur, il faudra aussi parler des remplacements tardifs de Galtier encore une fois sur ce match. Ça, à un moment donné, moi je suis lyonnais, les gars, vous le savez, j'ai un œil extérieur, mais à un moment donné, on a le même cas aussi à Lyon, voilà, on va pas se le cacher, mais Je suis désolé, vous avez annoncé, parce que je vais plus dire vous, les grands changements au niveau du PSG, ça passe aussi par créer un collectif, créer un état d'esprit dans l'équipe, et il faut, à un moment donné, faire tourner pour créer cet état d'esprit-là. Donc,
Avant qu'on... Bah justement, Ali, j'allais te demander ton avis sur les centres. En ce qui concerne les centres, moi, tu vois, j'allais dire, ils sont beaucoup faits à rater. Regarde les centres de Nuno Mendes à rater. Regarde les centres de Manchester City à rater. Bah, pour Foden qui marque contre United, tu peux centrer autrement si tu n'as pas des grands joueurs pour mettre ta tête. Mais bonsoir Ali. Avec un petit
bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi un peu de mon retard. J'étais encore en train de repenser un peu à ce match. Alors, sur la globalité, c'est pas qu'on fait un mauvais match. Je pense que... L'ambiance qu'il y a à Benfica est vraiment incroyable et je pense que les joueurs sont vraiment poussés par ce 12e joueur qu'on appelle. Et la mentalité de nos joueurs, le problème, je pense, a été de se mettre une pression dès le départ. C'est-à-dire qu'on a vu, on sait, surtout que quand on regarde la conférence de Galtier juste avant match, il te dit que c'est une équipe qui ose presser très rapide dès les premières minutes du match. On a les joueurs de qualité. On a les joueurs pour pouvoir tenir pendant 10-15 minutes cette pression-là. Malheureusement, aujourd'hui, ça nous a porté défaut puisqu'on a vu qu'on avait du mal à ressortir comme il fallait. On a eu un gros pressing, ce qui les a avantagés sur les 15-20 premières minutes. On a réussi à s'en sortir après le but de Messi, c'est ce qui a vraiment apporté le plus. Mais si on regarde sur ces 15-20 premières minutes, la seule action concrète qu'on a, c'est celle-là. Et ça, je trouve ça un peu... En fait, c'est coupé en deux. Je l'avais toujours dit... que si on met Verratti et Vincini en même temps, il faut qu'on fasse attention à une chose, c'est qu'ils ne sont que deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir cet escalier-là qui va se faire, mais il n'y a pas cet appui devant. Une fois que Messi, si tu regardes bien, une fois que Messi a commencé à revenir vers cet axe de jeu, à libérer l'espace sur le côté, on a été plus rapide, on a été joué beaucoup plus sur les pistons, on a eu beaucoup plus de centres. Et là où on devrait peut-être s'améliorer sur les centres, c'est des centres à mi-hauteur en retrait. Quand je dis en retrait, ça veut dire aux abords de la surface. Parce que Messi arrive de loin, Neymar arrive de loin, on n'a personne dans la surface. Ouais, mais... Moi, mon vrai problème et le gros flop sur lequel on doit vraiment s'appuyer aujourd'hui, et je pense que depuis le début de la saison, il est rentré dans une sphère qui ne devrait pas rentrer, je ne sais pas ce qu'il a, et tu sais, je t'en ai parlé, tonton. Moi,
c'est pas le sujet encore.
Bah ouais, mais je vais attendre parce qu'il y en a beaucoup. Je vais laisser parler Barry parce qu'il vient d'arriver. En tout cas, ce que je pense en tout cas de la globalité du match. Et oui, tu as raison sur les centres en retrait. Il faudrait qu'on les mette un peu plus à mi-hauteur qu'à rater.
Je sais très bien quel sujet tu voulais évoquer, Ali, mais on l'évoquera plus tard. Mais déjà, bonsoir Barry, comment tu vas?
Ça va être un frérot.
Super, vu que tu viens d'arriver, je te rappelle un peu le sujet qu'on était en train d'aborder. Le sujet, c'était est-ce que le problème vient du système ou de l'attitude des joueurs quand on voit les demi-temps qui sont entre le jour et la nuit, clairement? En ce qui me concerne, je trouve que c'est plus un problème d'attitude de joueur quand tu vois l'attitude en première mi-temps et la deuxième mi-temps qui est faite. Est-ce que c'est lié au schéma peut-être aussi? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Barry, en tout cas?
Attitude, non. Parce qu'en fait, moi, c'est un sujet qui commence à me saouler un peu, ça. C'est-à-dire que dès que tu sors une contre-performance, on parle de l'attitude des joueurs. Moi, ça commence, c'est un truc qui a tendance à m'énerver. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tout se passe bien, tout est parfait, tout est rose, et puis dès que tu tombes contre une équipe qui te pose des problèmes, c'est forcément l'attitude des joueurs. Non, à un moment, en face, t'as une équipe qui vient avec des idées de jeu, qui les met en place et qui te fait mal. Pour moi, là où c'est dérangeant, c'est que dans le schéma de jeu, on passe trop dans l'axe. Mais ça, c'est pas un problème d'attitude. C'est un problème de cohérence de jeu, c'est un problème de consignes. Je pense pas que c'est des consignes. Je pense surtout que c'est les joueurs, ils ont l'habitude de jouer comme ça. T'as vu, ils ont l'habitude de passer dans l'axe. Je prends l'exemple de Neymar et Messi. Ils ont l'habitude de jouer ensemble dans l'axe. Mais parler d'attitude, je trouve quand même que quand on parle d'un problème d'attitude, c'est autre chose. Un problème d'attitude, c'est Kylian Mbappé qu'on a eu au début de saison. C'est pas un problème d'attitude qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu le Paris Saint-Germain essayer de jouer. C'est juste qu'en face, les mecs nous ont posé des problèmes et que ça a été compliqué pour nous, tout simplement. Ouais. Aujourd'hui,
ils ont beaucoup forcé à jouer, en tout cas en première mi-temps, tu vois.
Voilà, tu vois, on a dû aller les chercher. Ils nous ont obligés à aller les chercher. Excusez-moi, j'entends un bruit derrière, un retour son. Donc, si vous pouvez juste couper vos micros, parce que ouais, voilà, merci. Et du coup, ouais, c'est bon, parfait. Et du coup, ce que je disais, moi, c'est pas vraiment un problème d'attitude. Je pense vraiment qu'on est tombé contre une équipe qui est venue avec des idées de jeu et que nous, on a essayé de tenter quelque chose qui ne passerait pas. On a essayé de tenter dans l'axe alors que les mecs nous attendaient. Je sais pas si vous avez remarqué, je prends l'exemple de Neymar en première mi-temps. Dès que Neymar avait le ballon, on lui coupait la possibilité de se retourner. Donc, du coup, il perdait le ballon. Ou alors, quand il arrivait à se retourner, il y avait trois joueurs sur lui. tu vois. Et ça s'est vu sur Messi, Vitinha, Neymar et quelques fois sur Mbappé. C'est-à-dire que dès qu'on avait le ballon, trois joueurs directement sur le porteur du ballon. Et donc, ça nous empêche de nous déployer nos jeux. Est-ce que ça, c'est un problème d'attitude? Non. Ça, c'est juste qu'en face, les mecs, ils sont venus avec des idées de jeu pour te poser des problèmes et ils ont réussi à te poser des problèmes, tout simplement.
Ah, Barry, là. Ouais, non. Je rejoins à moitié ce que dit Barry, même si je comprends voilà, ce qu'il veut dire. C'est juste sur le côté. Moi, je pense que c'est un problème de consigne également de Galtier. À un moment donné, moi, je pense que tu n'exploites pas les capacités de tes deux pistons. Qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de vouloir faire briller à tout prix les trois de devant, d'accord? Et qu'à un moment donné, quand tu en deviens trop lisible, d'accord, sur un match, parce qu'à un moment donné, le Benfica sont pas bêtes, ils regardent la télé, ils regardent les matchs du PSG avant de les affronter. Et quand tu vois que tes pistons, pour la plupart du temps, ne vont pas tirer la quintessence de leur capacité offensive, c'est-à-dire déborder sur les côtés, étirer le bloc bas, étirer la défense, centrer, alors même s'il n'y a pas de véritable neuf, on a vu les peu de fois où ils ont centré, que ça a amené un énorme danger à chaque fois au niveau de la surface de réparation. Et tu peux toujours avoir un pied à force, à un moment donné, un pied qui va atterrir, un pied parisien qui va la mettre au fond ou qui va créer le danger face au gardien. Donc moi, c'est à un moment donné, tu en deviens trop lisible, tu n'exploites que le côté axial. Et mis à part sur, oui, il y a eu de très belles phases de possession du PSG, mais si tu n'as pas cette réussite individuelle de tes trois de devant, bah, tu ne crées aucune différence.
Ok, avant de redonner la parole, NLD, c'est la dernière fois que je te dis, le prochain mot bizarre que tu balances, je m'en fous de ta raison ou ta tort, tu sautes. Pareil pour tous les gens du live, en vrai de vrai, ça commence à me saouler à chaque fois, on le dit dans les commentaires, parlez correctement parce qu'on parle football, on n'est pas là pour s'insulter, donc le prochain qui insulte, tolérance zéro, il n'y a pas de je te préviens ou quoi que ce soit, tu sautes, direct.
Bonsoir à Hitch, comment tu vas?
Ah bonsoir, là, quoi, j'arrive dans le boss, elle est tendue un peu là, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, Hitch, il arrive en mode. Pour revenir à ce que disait Ken, oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense surtout que les mecs, t'auras beau leur imposer des systèmes, tôt ou tard, ils décideront de jouer comme ils ont envie de jouer. Et c'est ça le vrai problème. C'est un problème, c'est que tu vois. Au début de saison, on essaie de trouver les pistons. Moi, je prends l'exemple de Vitinha. Vitinha, il essaye de les trouver. Encore Vitinha, encore ce soir, qui est encore le Parisien le plus étincelant sur le terrain. Ça prouve que voilà, le mec suit les consignes du coach à la lettre.
Oui, bah oui.
Et au-delà de sa qualité de footballistique. Mais voilà, au bout d'un moment, tu auras beau leur dire de ouais, passer sur les côtés, passer ici, passer ça. Ils ne voudront pas le faire. Tu vois le truc? Et à un moment, je pense que Galtier, il faut qu'il se dise quoi? Il faut qu'il se dise, hey, si à la 60e minute, les gars continuent leur connerie, il y a un des trois qui sort.
Ouais, mais il le fait. Barry, à un moment donné, il va falloir se poser la question sur ce milieu de terrain où tu as que Vitinha, pour moi, qui peut vraiment faire des phases offensives de transition rapide à lui tout seul, essayer de faire des rides, si je puis dire, si tu veux, avec le ballon pour pouvoir amener un allant supplémentaire d'un point de vue offensif. Mais. On a vu que ce soir, le milieu de terrain quand même du PSG a été vraiment mis en difficulté par le Benfica. Et face à une équipe, même si encore une fois, les matchs de poule, il faut faire attention par rapport aux matchs à élimination directe, voilà, il y a une petite pointe d'alerte, si je puis dire, sur le PSG face à une équipe qui va te mettre beaucoup d'intensité et face à une autre qui aura la justesse technique vraiment largement au-dessus de la moyenne pour atteindre cette Ligue des Champions. Donc attention quand même.
Moi, là où je rejoins un truc, je pense que c'est pas forcément le fait qu'on n'a pas voulu jouer sur les pistons comme tu le veux et tout, c'est surtout le placement de nos joueurs offensifs. À un moment donné, tu sais que Neymar et Messi se retrouvent. Si on mettait Mbappé en 9 avec Neymar à côté de lui et qu'on met Messi derrière. À partir de là, tu vas avoir de l'espace sur le côté pour pouvoir laisser tes pistons avancer. Mais le problème, c'est que tu regardes bien 80% du temps, nos offensifs devant. La preuve encore, et j'en suis désolé, mais il m'a vraiment frustré aujourd'hui. Mbappé n'a fait que d'être sur le côté. Il faisait des centres, mais pour qui? Il n'y a personne. C'est toi qui dois être là. Mais le problème, c'est que c'est pas une question de consigne haute. Je pense que c'est une consigne de placement. Ils ont tellement été habitués à jouer en 4-3-3 comme à l'époque, et ils veulent pas se mettre dans la tête qu'ils peuvent jouer à trois axios comme ça. C'est-à-dire qu'avec un Neymar et Mbappé là. Un Messi derrière eux et que tu vas faire partir tes pistons. Là, tu vas donner de la largeur à ton joueur. Là, tu vas avoir un apport offensif. Là, il va y avoir du monde dans l'espace. Mais le problème, encore une fois, c'est que non, on va jouer sur le côté. On va essayer de rentrer comme à l'époque de Ronaldo et frapper directement en mettant un ballon à la hauteur des tomes. Mais ça n'existe plus, ce football-là.
Mais tu sais, ça n'existe plus. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que tu regardes Benfica, tu regardes le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas les mêmes systèmes, mais ils viennent avec les mêmes idées de jeu. C'est-à-dire que tu te rends compte de l'apport d'un numéro 9 dans cette équipe-là. Gonçalo Ramos, je l'ai répété durant le match, il ne marque pas, mais il fait super mal. Il fait super mal. Pour moi, le but contre Danilo, c'est son but. Tu vois, c'est lui qui crée tout.
Tu vois, le mec qui était pisté par Campos.
Oui, oui. C'est le mec qui il a fait un match super. Tu vois, je prends l'exemple de Neres. Neres aussi qui fait un match excellent. Je prends l'exemple de Rafa, je sais plus comment il s'appelle, qui rentre en cours de jeu et qui fait un match super.
Joao était pas mal.
Voilà, et Joao. Et tu te rends compte que Benfica viennent pas avec le même système, mais pratiquement les mêmes idées de jeu du Paris Saint-Germain. Et quand tu compares les deux équipes, tu vois tes lacunes.
Ouais, mais Barry,
j'ai proposé qu'on demande un peu son avis à Hitch qui attend depuis tout à l'heure dans le VTC. Noir avec son micro fermé dans sa voiture. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Hitch? Est-ce que pour toi ce match, le résultat, il résulte d'un problème de système, d'un problème d'attitude des joueurs, de autre chose? Est-ce que c'est plus ce facteur Benfica peut-être?
Je dirais que c'est pas un problème tactique parce que le 11 aligné était plutôt cohérent. J'ai envie de dire que c'est un problème mental. Un problème mental et un problème d'ego. Parce que moi, je suis désolé. Moi, il y a des actions où aujourd'hui, comme dit Barry, Benfica joue avec les mêmes idées de jeu que le Paris Saint-Germain. Joue avec les mêmes idées de jeu, avec des latéraux qui peuvent être offensifs, avec une équipe qui peut écarter sur les côtés, avec des ailiers qui sont techniques, à l'image d'un Neres. Mais pourquoi Neres fait mal aujourd'hui? Pourquoi Neres passe? Pourquoi Neres arrive à éliminer en 1 contre 1 ce que Mbappé ou un Neymar ne peut pas faire sur le
côté? Tu avais une projection offensive d'autres joueurs également avec.
Mais bien sûr, totalement. Les deux équipes ce soir marquent sur une récupération de balles dans environ la même zone du terrain. C'est ça qui est ouf.
Non, mais
tu regardes le match en France, c'est Neymar qui perd le ballon dans une zone.
Il dit que
Mais si on compare le match de Neres et le match de Neymar, Neres arrive à passer. Pourquoi? Parce que Neres ne va pas systématiquement au duel. Neres se sert souvent d'un 1-2.
Il n'est pas seul. Il n'est pas seul quand il avance.
Exactement, il n'est pas seul. Le Benfica, ce soir, ils avancent en meute. Ils sont groupés. Et moi, je suis désolé. Lorsque Neymar a le ballon, bien sûr que Neymar est un joueur fantastique. Neymar, c'est un joueur génial. Mais Neymar, moi, je ne comprends pas quand Nuno Mendes, une action par tout ça sur le côté,
première action de la deuxième mi-temps.
C'est ce que j'ai dit au début. Hein. C'est
un bon club ce soir. Il tue le Benfica. Je ne sais pas où se trouve
ce club. Je vais commencer. Je ne défends pas Hakimi. Hakimi
ça sent ça.
Pas fantastique. D'accord. Mais je suis désolé.
Il n'y a pas de mais. Je vais couper ton micro. Quand c'est Hakimi, t'as toujours des mais, toi.
Moi, je vais parler. Tu prends l'exemple d'un mec en usine qui fait systématiquement la même tâche. Systématiquement, il débouche des dentifrices. Et bien, son cerveau, il est conditionné. Et il perd en QI. Eh bien, je suis désolé. Là, on a Hakimi qui prend le couloir, personne ne le calcule. Il fait des allers-retours comme si c'était un joueur de semi-fond. Il perd en QI football. Hakimi, aujourd'hui, il y a un problème de projection à l'avant. Et quand il se projette, il y a un problème de projection. Et quand il défend, il y a un problème de défense.
Mais il n'a pas été mauvais, Hakimi, ce soir. Il n'a pas été mauvais.
J'ai dit que Hakimi,
le fait qu'on ne le sert pas tout le temps et qu'il court comme un Octilien sans voyageur à chaque fois, eh ben, je suis désolé, il perd en QI football. Voilà.
C'est normal, tant qu'il y aura les trois devant et qu'ils voudront jouer et qu'ils voudront pas se mettre au service du collectif, ça sera toujours comme ça. Mais j'ai constaté que même des fois, ils ne voulaient même pas se projeter à Hakimi à un moment donné.
Ce qui pose un problème.
Et après, on va dire qu'il est nul. On va dire qu'il est nul parce qu'il se projette plus. Et c'est tout simplement, c'est qu'à un moment donné, on a ras le cul de faire des efforts et qu'en gros, il faut toujours servir le ballon aux mêmes personnes. Et c'est les mêmes personnes qui veulent briller.
Moi, j'ai une spécificité du fait que je regarde les matchs du Maroc. D'accord. Peut-être que certains d'entre vous ne les regardent pas.
Tu regardes comment il était dans ses anciens clubs.
C'est pareil. C'est un fou.
Moi, je vais te dire un truc par rapport au Maroc.
Hakimi au Maroc, c'est pas le même joueur. Hakimi au Maroc, ce n'est pas le même joueur.
Tu as lancé un débat tout seul, personne n'a rien dit sur Hakimi ce soir.
Non, moi je l'ai dit, il a pas mauvais match. Je le dis, il a été mauvais. Il a
attends,
été mauvais.
Attends. Entre, ouais, mais Hitch, entre être mauvais, et, je suis désolé, tu sais ce qui. En fait, tu sais quoi? Je pense que Kimi est trop gentil. Parce que, comme tu dis, il fait des appels de tout va, il n'y a personne qui le calcule. Et une fois qu'il a le ballon, les seules fois où il perd quasiment le ballon, regardez bien en première mi-temps le nombre de combinaisons qu'il a essayé de se faire dans l'intervalle. Et à chaque fois, en fait, c'était tellement lu par les joueurs en face qu'il s'est retrouvé, en fait, juste à. En fait, il est juste. On voyait vraiment ce qu'il faisait. En fait, c'est ça le problème d'Hakimi ce soir-là. Une fois qu'il avait le ballon, il a été trop gentil dans le côté où je ne veux pas être égoïste, je veux jouer avec mes collègues. Peut-être qu'il s'est dit dans sa tête. Mais il n'a pas été mauvais, c'est ce que je te dis.
Il a été bof quand même.
Non, mais on dit il a été bof, pourquoi? Parce que quand il a essayé de faire une passe, le ballon, il a été raté, ou bien, enfin, il a été intercepté. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a été dans le mauvais jeu. À faire un mauvais match, c'est quelqu'un qui est complètement éteint dans son match et qu'on perd un match à cause de lui, ou bien qui fait pas les efforts qu'il faut. C'est pas du tout le cas de Hakimi. Hakimi, il a fait les efforts, il a fait les appels, sauf qu'à un moment donné, il est trop gentil. Il n'est pas assez égoïste pour prendre se déborder dans ce tour-là avec le ballon au pied. Ballon au pied, je te parle de ballon au pied, pas forcément juste sans ballon. Ballon au pied, il ne prend pas assez l'ascendant sur son défense.
Je suis exactement d'accord.
Je suis désolé, je ne voulais
pas. Non, mais c'est vrai,
c'est la 55e saison du débat
actuel. Ça y est,
on fait ce débat depuis l'an dernier. Stop.
Non, mais d'accord, on va parler d'Hakimi. Non, mais ça parlait d'Hakimi. Il y avait quand même
une équation. C'est dans le jeu. Mais c'est dans
Hakimi, je le supprime de la diffusion. Est-ce que c'est bien clair? Maintenant, je
Oui, Poutine. Oui, Poutine. Oui.
Merci.
Non, mais.
L'autre, il croit c'est Maroc central. À chaque fois, il vient nous parler d'Hakimi. Il croit c'est Maroc
central. Enfin bref, il y a quand même une équation. Parce que moi, je suis désolé. Oui, Galtier, c'est quand même plus agréable que Pochettino. Moi, je suis d'accord. Et je suis le premier à le dire. Et je militais. Mais maintenant, je tire quand même une petite sonnette d'alarme. Et je le dis, hein, vous allez me dire que je suis alarmiste ou quoi que ce soit. Mais quand même.
Je l'ai dit au début. Hein.
Quand même, il y a une équation qui était sous Pochettino, qui était le 7+3 en attaque et le 10+3 en défense. Je suis désolé, mais force est de constater que ce problème, il est toujours d'actualité. Même si Neymar se défend plus que les autres, là, je suis désolé. Quand Neymar ne fait pas l'effort défensif, d'accord. Je suis conscient que depuis le début de saison, il le fait, mais quand il ne le fait pas, on est en 10-3.
Mais pourquoi c'est de sa faute? Pourquoi c'est de sa faute? Alors attends, il fait ses efforts à lui, les deux autres sont en train de marcher à la Touba. Et non, attends, ça, le mec, il est le plus jeune des trois, le mec est en train de marcher. Donc c'est-à-dire que lui, quand il a besoin de souffler, comme n'importe quel homme, quand il joue sur un terrain, quand tu fais des efforts à aller tout bas, et tu le sais très bien si tu as joué au ballon, quand tu fais 70 mètres aller-retour parce que tes joueurs ne savent pas tenir le ballon vers l'avant, et on l'a vu sur les 15 premières minutes, on n'arrivait pas à sortir, on perdait le ballon trop rapidement, et ça c'est dû, et c'est à cause du fait qu'on est obligé de faire des allers-retours, et tu as deux mecs vers l'avant, et aujourd'hui on l'a très vite constaté, et on le voit de plus en plus par rapport à Neymar. Il y en a plus deux qui marchent. On est plus sur un 8-2 qu'un 7-3. Et malheureusement, quand Neymar a besoin de souffler, il n'y a aucun des deux autres qui veut se souffler pour lui. Et c'est ça le problème.
En fait, le truc qui est criant aussi, c'est moi je prends l'exemple d'une action en première mi-temps où Benfica, en trois passes du milieu de terrain, alors que c'est des passes même pas en mouvement. C'est-à-dire que c'est même pas un mouvement qui est créé par Benfica qui permet d'amener un décalage jusqu'à ta surface de réparation. En trois passes, il passe. Du milieu de terrain, passe à leur numéro 6 qui envoie leur numéro 9 en restant statique. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain est statique. Ils ont juste eu à se placer entre les lignes pour pouvoir se permettre cette action-là, justement, qui derrière oblige Donnarumma, qui est pour moi le joueur, l'homme du match aujourd'hui, à sortir un arrêt magnifique. Par contre, là où moi je vais être un peu plus nuancé, c'est pas tout le match où Benfica fait mal. Il y a eu clairement une deuxième période où le Paris Saint-Germain a opposé son jeu, sauf qu'à ce moment-là, on n'a pas pu se reposer sur nos cracks, sur les joueurs sur lesquels on devrait se reposer, c'est-à-dire Kylian Mbappé, c'est-à-dire Neymar. Je trouve que Neymar, cette seconde période, est très intéressante, que ce soit offensivement ou défensivement par rapport à sa première mi-temps. Il y a aussi eu en seconde période le fait que Benfica ait ralenti un peu son pressing, qu'on a vu à partir de la 25e minute jusqu'à la 35e, puis ils sont revenus jusqu'à la fin de la première période. Et en seconde période, on a vu clairement que Benfica baissait en intensité de minute en minute et le Paris Saint-Germain, eux, augmentait. Sauf qu'on n'arrivait pas à passer ce palier-là du but. Quand je prends l'exemple d'une frappe d'Hakimi qui est côté droit, qui est arrêté par le gardien. Je prends l'exemple aussi de frappes qui sont inutiles. Alors, il y en a une qui est très belle de Kylian Mbappé que le gardien sort. Une autre, je ne sais pas pourquoi
elle la
sort.
Il vise
la tribune. Je crois que je ne sais pas. Il voulait toucher le ballon d'Nkoukou qu'il a mis là, il y a quelques années. Là. Bref, je n'ai pas capté son délire. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'en seconde période, malgré la vanne, on a trouvé des axes de passe et on a commencé à faire mal. Mais ce n'est pas assez. C'est pas assez. Tout à l'heure, j'ai dit que le meilleur joueur sur le terrain, pour moi, c'est Vitinha. Et ensuite, c'est Donnarumma. Tu vois, même Donnarumma, je le mets avant Vitinha. Mais tu regardes, en première période, Vitinha, Benfica, te les seuls. Neymar, Benfica, te les seuls. Tout simplement parce que les mecs, ils ont compris. En fait, en vrai de vrai, si on arrive à stopper un Vitinha qui, lui, va essayer de trouver les côtés, si on arrive à le stopper, bah, les côtés ne seront pas trouvés. Si on arrive à stopper Neymar, bah, forcément, ça va être beaucoup plus brouillon. Alors, ils prennent un but dans le cours du jeu.
Mais Verratti, il est où alors dans ton schéma là?
Bah, Verratti, il est
dans la défense, il est très proche de la défense, tu as vu, on est à 4 défenseurs.
Mais bah, est-ce que c'est normal?
Alors,
système de 3, oui, frère.
Franchement,
système de 3 défenseurs, oui.
Franchement, dans la...
qui va relancer derrière? Qui va relancer Marquinhos? Qui
est en mais de il doit faire les efforts aussi pour amener.
Mais il le fait.
Il le fait pas pour amener une certaine. Non, mais je te parle pour amener une certaine transition rapide du coup d'un point de vue offensif. Sur son match défensivement, il a été plutôt bon. Mmh. Mais à un moment donné, on va se poser la question aussi, c'est que votre milieu de terrain manque cruellement de projection offensive. Et ça va poser un réel problème face à des équipes vraiment bien regroupées quoi.
Pour moi non.
Si tes 3-2 devant sont en méforme comme ce soir, ouais, voilà. Ça peut poser dans ta variation de jeu, ça va poser problème à un moment donné.
En fait,
pour plusieurs outils dans une équipe. Hein.
En fait, en phase offensive, je pense. Hein, après, je laisse la parole à Ali. Wesh, t'es pisté par les Condé ou quoi?
Ça fait deux voitures qui passent. Je veux rien dire, mais il y a deux voitures qui passent.
En phase offensive, je me fais contrôler par la police à 140 pouces bleus.
En phase offensive, tu as un Verratti qui est très bas, qui est en position de numéro 6. Et donc, derrière, tu as normalement la qualité offensive où justement Verratti peut s'effacer. Tu as plein de joueurs qui sont devant. C'est juste qu'aujourd'hui, dès que tu donnes le ballon à Neymar, bah, il refuse de tuer les pistons. Messi, pareil, Kylian Mbappé est brouillon. Les pistons ne sont pas trouvés, donc ils sont inutiles. Donc on va dire qu'ils sont brouillons. Et donc forcément, là, je suis d'accord avec toi, tu as besoin
d'un Verratti. Mais Barit, on sait qu'il y aura un problème avec les trois devant. Donc à un moment donné, c'est soit tu prends la prise de risque, ou tu ne la prends
mais
pas.
Tu n'as pas tout le temps le problème avec les trois devant. Depuis le début de saison, les trois devants sont étincelants.
Non, mais me parle pas de la Ligue 1, Barry. Moi, je te parle
vraiment. Bah,
je veux voir le PSG. Bah, oui, d'accord. Mais moi, je te parle pas. C'est vraiment une équipe qui va jouer, qui va te mettre l'intensité durant un match. Là, on sait que la Juventus, c'est une équipe qui est plutôt malade. La preuve, Benfica, là, on colle un score.
En Ligue 1, tu l'as fait contre Monaco. Monaco, on fait match nul. Mais les trois devants ne sont pas immondes. À part Kylian Mbappé, que j'ai trouvé un peu plus compliqué.
Non, là, tu as perdu sur le milieu de terrain face à Monaco.
Quand on a perdu contre le milieu de terrain, on a perdu à l'impact physique et non pas à l'impact technique. Quand tu joues contre Lyon, Lyon a fait un bon match contre nous. Tu vois, et pourtant Paris Saint-Germain a pas fait un match si dégueulasse que ça. Les trois devant n'ont pas été si dégueulasse que ça. Tu vois ce que je veux dire? En Ligue 1, tu as quand même des oppositions. Je laisse la parole, mais on a joué contre Benfica. Je pense que demain quand tu vas jouer contre Lens va te poser exactement les mêmes problèmes. Pourtant, Lens, c'est une équipe de Ligue 1. Donc, tu peux avoir des oppositions en Ligue 1 qui vont te permettre d'être fort en Ligue des Champions. Le vrai problème pour moi aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de compensation défensive, offensive et défensive. Offensivement, tu ne fais pas se tourner assez le ballon assez rapidement. Je prends l'exemple de Messi, dès qu'il récupère le ballon, il fait 2-3 touches. Derrière, les mecs, ils se sont replacés. C'est ridicule. Défensivement, il y a très peu de compensation défensive. Donc, tu arrives face à des mecs qui sont Benfica, qui te posent énormément de problèmes. Tu as l'impression que c'était City en face. Pour moi, si tu ne fais pas les compensations, que ce soit offensive ou défensive, tu auras toujours des problèmes.
Alors, je vous propose justement qu'on aborde un autre sujet, vu qu'on a quand même Pas mal, gamberger sur les deux mêmes sujets en 30 minutes. J'allais vous demander, pour pas que ce live soit trop trop long, et on abordera les autres sujets dans d'autres vidéos annexes s'il le faut, chacun votre tour par ordre des caméras et dans le cam le plus olympien, quels sont vos top et flops dans ce match et pourquoi? Donc on va commencer par Barry, par ordre des caméras, et je clôturerai les top et flops de ce match.
Bah écoute, écoute, moi j'en donne toujours deux, donc deux tops et deux flops. Pour moi, dans les tops, je mets Donnarumma en 1. Je trouve que voilà, il réalise un match de patron. Pas besoin d'épiloguer, de toute façon, on a tous vu le match. Et en 2, je mettrai Vitinha pour ne pas changer, qui est le seul à trouver les côtés, qui est le seul à s'intercaler, qui est le seul à avoir, j'ai pas envie de dire une intelligence tactique, parce que ces mecs-là, ils ont tous une intelligence tactique. Mais qui est le seul à se dire que bah, je joue pour l'équipe, qui est le seul à jouer pour l'équipe avec Marco Verratti peut-être et Danilo. Donc je mettrai Vitinha. Et en flop, je vais mettre Kylian Mbappé, parce que voilà, je trouve que voilà, en plus il m'énerve, je venais juste de floquer ce maillot-là Mbappé, j'ai le seum. Ouais, je mets Kylian Mbappé parce que voilà, je trouve que voilà, trop de dézonage. Tu vois, à force que tout le monde dézone, bah, au bout d'un moment, tu te retrouves avec le même jeu que Pochettino, un jeu qui n'a un non-sens tactique. Donc, je mettrai Kylian Mbappé. Et en deux, bah, j'ai pas vraiment envie de le mettre en flop parce que sa deuxième période, j'ai trouvé qu'elle était assez intéressante. Et en première période, bah, c'est pas lui qui était mauvais, mais c'est Benfica qui l'a vraiment bien isolé. Je vais mettre Neymar. Tu vois, même si pour moi, c'est pas vraiment un flop. Voilà, il a été en dessous aujourd'hui. Benfica l'a mis en dessous. Donc, je mettrai Neymar. J'ai pas envie de mettre un des deux pistons en flop parce que forcément, si on ne les trouve pas, bah, les mecs, on peut pas les mettre ni en top ni en flop. Voilà, à certains moments, tu as vu des fulgurances de Nuno Mendes qui prouvaient qu'il avait du ballon. Mais voilà, s'il est scellé, bah, ça va être compliqué. Et Hakimi, il fait des allers-retours. Des fois, Metley, il les fait même plus. Des fois, il fait des montées, il sort des frappes, mais je sais pas, il sort des frappes qui servent à rien. Voilà, donc en vrai, voilà. Donc voilà, j'ai pas envie de les mettre en flop. Voilà.
Bah, Ken,
mes top, alors ça va être compliqué. Bah, je viens rejoindre déjà Barry en numéro 1, Donnarumma qui sauve quand même clairement le PSG sur ce match là. Je vais mettre Vitinha, bien sûr, très bon joueur. De toute façon, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié du côté de Bordeaux. C'est vraiment une belle recrue du PSG pour ce coup. Et le troisième top, alors là, je sais pas, je vais mettre parce que. Non, Verratti. Pas Verratti.
Tu lui en demandes trop.
Non, alors en fait, j'hésite entre deux joueurs. Alors, c'est peut-être incompréhensible, mais encore une fois, je parle d'un point de vue extérieur, qui ne supporte pas le PSG. De par son état d'esprit, voilà, je vais mettre, parce qu'il faut mettre un troisième, plutôt Neymar. Voilà, parce que je trouve que Neymar, mine de rien, il enchaîne les matchs. Dans son attitude, je trouve quand même qu'il se met au service, plutôt lui de l'équipe, comparé aux trois devant. Donc, je ne l'aime pas beaucoup, mais il faut quand même rester objectif. Neymar, pour moi, quand même, fait les efforts. Et voilà, un petit encouragement. J'aurais pu mettre, et là c'est à double tranchant, parce que Danilo, je trouve qu'il fait pas un match si dégueulasse que ça défensivement, mais il fait l'erreur. Mais je crois que c'est lui qui met la balle au fond. Je crois qu'il touche et il marque contre son camp. Est-ce que c'est de sa faute?
Parce
que
c'est... Ça,
attention.
Ramos joue très bien.
Laissez-moi finir, les gars. C'est très bien centré, donc je peux pas tout lui rejeter sur Danilo. Mais en tout cas, ce jour-là. Dans sa mentalité, je trouve qu'il est beaucoup décrit du côté du PSG. Il est vraiment hybride au niveau des postes. Il peut t'apporter au milieu de terrain, en défense centrale, sur une défense à 3, bien sûr, même sur une défense à 2, il n'a pas toujours été dégueulasse. Je trouve que vraiment, c'est un joueur voilà, qui ne va jamais faire chier dans un vestiaire, qui est vraiment, voilà, qui est vraiment un bon petit joueur de club, voilà, à haut niveau.
Et en plus, au vu des infos qu'on a, apparemment, c'est aussi un leader de vestiaire, apprécié des joueurs et qui n'hésite pas à mettre des coups de pression.
Barry, il y a beaucoup de supporters du PSG, je ne comprends pas pourquoi il lui crache.
Non, mais c'est des fous. C'est des...
L'exemple de Ramos, quand il perd le ballon, je ne sais pas si tu te rappelles, Barry.
Juste pour faire un petit aparté, mais sur Danilo, pourquoi les gens le détestent? Moi, je vais te dire pourquoi, tout simplement parce que tu as l'après Thiago Motta, où on a cherché ce Thiago Motta et on n'a pas réussi à l'avoir, et donc tout le monde s'attendait à avoir un joueur technique. Et donc les mecs n'arrivent pas à comprendre qu'un numéro 6 peut être aussi... quelqu'un de très fort physiquement et très faible techniquement. Ce n'est pas le problème. Tant que justement, ta cohérence tactique,
il joue avec ses qualités
numéro 6. C'est ça. Mais même sur le but, après, dernière chose sur le but, moi, je n'ai pas envie de tacler de Danilo parce que c'est lui qui l'a poussé.
Je donne mes flops encore.
Donc, on va le mettre dans les 30% de problèmes. Mais le vrai problème, pour moi, c'est que le mec, il est dans un boulevard quand il centre. Pour moi, c'est ça le vrai problème.
Paris, ne vole pas les top et flop à Ken. Tu as eu ton tour de parole.
Ouais, non, mais juste, je voulais revenir sur l'histoire du centre parce que ça, c'est un truc que j'avais oublié de parler, mais c'est un truc.
Le mec, c'est bon. C'est Ramos qui la joue bien.
Il est dans son salon. Le mec, il peut centrer. Il n'y a personne qui l'attaque. C'est une dinguerie.
Et Ramos donc, aussi, j'aime beaucoup Danilo et Marquinhos aussi.
C'est pour ça que je pouvais pas mettre forcément Danilo en flop, parce que je trouve qu'il fait quand même un match relativement intéressant alors qu'il n'est pas réellement à son poste. Pour les flops, je vais mettre bien sûr même si Messi marque, je trouve qu'il fait pas un match extraordinaire. De toute façon, voilà, il a claqué son but. Est-ce qu'on peut l'ériger en tant que top? Non, je ne le mettrai pas en flop, mais je vais plutôt mettre Mbappé. L'animation défensive des trois défenseurs et Galtier. Galtier, pour ses changements tardifs, à mon avis, il va falloir se poser des questions si apparemment la révolution est en marche du côté du PSG ou pas. Voilà.
Juste pour savoir, t'as mis en flop Messi?
Ouais, non, j'ai dit que c'est compliqué de le mettre en flop parce qu'il te marque le but, mais il n'est pas non plus transcendant dans le match, je trouve, à mon sens, tu vois. Maintenant, Mbappé, je le mets quand même. L'animation défensive, même si je tire Danilo de ce trio défensif, et Galtier, voilà.
Ok.
Alors Ali, du coup, t'es top et flop au lieu de faire le tour de la Terre.
Ok, pardon. Le top 3, ça va être simple. Top 3, ça, c'est très simple, très, très. Franchement, c'est très, très simple. En premier, je vais mettre Donnarumma, mais parce que je pense que c'est le match référence pour lui. Je pense que c'est un match où il va prendre beaucoup de confiance sur les prochains matchs et tout, que ce soit Balot ou autre. Il va pouvoir un peu se remettre en confiance et je pense qu'il avait besoin de ressortir un gros, gros match comme celui-ci. En deuxième, Vitinha, parce que pour moi, encore une fois, si on ne l'a pas encore, je ne vois pas où est-ce qu'on aurait pu apporter cet apport.
Très, très bon joueur.
Cet apport offensif qui nous a cruellement manqué l'année dernière. Et puis je vais mettre Messi. Je vais mettre Messi parce que sur les trois, sur l'apport en première mi-temps, je pense que c'est l'un des seuls qui avait compris qu'on avait besoin de se rapprocher de Vitinha et de Verratti, et ça nous a apporté à avoir des actions un peu plus offensives, et on l'a vu à partir de 15-20 minutes avant le but qu'on met, on a commencé à avoir un Messi beaucoup plus proche de son équipe. Pour moi, il fait un très bon match en deuxième mi-temps. Il sort juste avant sa blessure. Je le sens qu'il est capable d'aller marquer ce deuxième but. Malheureusement, il se blesse. On espère que ça soit pas trop grave. En flop, top 1. Et lui, il me déçoit jour après jour. Il me déçoit. Et franchement, je pense que Poto, on va se faire un petit truc ensemble par rapport à lui, pour vraiment juger sa saison, son début de saison de cette année, l'année dernière. Mbappé, les amis, pour moi, il est en train de se perdre tout seul. Il n'est pas du tout dans la bonne mentalité. Je ne sais pas à quoi il joue. Je sais pas où est-ce qu'il est son transparent. Par rapport à l'année dernière, où tu as un Mbappé, frérot, il est là pour s'imposer, il est là pour te montrer que c'est lui le patron, qu'il n'y a personne qui va le soulever. N'importe où il ira, dans n'importe quel match, il nous a toujours apporté du bien. Là, j'ai l'impression qu'il se laisse aller, qu'il se dit quoi, c'est bon, j'ai signé mon nouveau contrat, je peux me laisser aller. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc du coup, j'ai pas envie de me blesser, je vais pas faire cet effort que.
Tain, quand tu vois ses stats en étant mauvais, j'ai hâte qu'il soit bon. Hein.
Oui, mais sauf que moi, j'attends beaucoup plus d'un joueur.
Non, mais c'est ça. Plus décisif que l'an dernier à la même période de l'année. La différence, c'est juste que les autres sont plus forts que lui autour de lui.
Attends, tonton. Entre être décisif parce que tu marques juste un but et l'apport qu'il avait l'année dernière, c'est complètement différent. Il avait un apport sur l'équipe qui était importante que je ne retrouve pas. C'est ça le problème, c'est que
peut-être parce que le retrouve pas. L'équipe autour de Mbappé a augmenté l'an dernier. Attends, Messi était au même niveau l'an dernier, Neymar était au même niveau l'an dernier. Non. Donc comme les autres sont meilleurs autour de Mbappé, forcément, ça se voit moins s'il est bon. Et s'il est mauvais, ça se voit plus. Parce que les joueurs sont meilleurs autour de lui.
Bah si moi j'ai que des joueurs très bons et meilleurs autour de moi que par rapport à l'année, mais je vais que faire augmenter. Je vais être encore meilleur. C'est-à-dire que
dis que l'an dernier au même stade,
non,
de la
saison, c'est pas forcément.
Mais il y a un extra.
Non, dans l'import, je te parle pas des stats. Oui, mais je te parle pas des stats de but.
Il y a un extra sportif aussi.
C'est pas forcément.
C'est pas parce que tu vas être les meilleurs que tu seras meilleur, forcément.
Voilà, j'allais dire, il y a une histoire de place dans le vestiaire, mais on évoquera ça plus tard. Je te laisse faire ces top
et
flop.
Il y a des extra sportifs dans les aussi. Et le deuxième, pour ça, prendre un mi-temps, mais bon, comme on l'a dit, et comme l'a si bien dit Barry, c'est pas du tout de sa faute. Je pense que Neymar, il sort pas la tête sous l'eau, il s'énerve dès le début du match, du coup, il sort de sa mi-temps direct. Et du coup, il peut faire beaucoup mieux par rapport à ce qu'il nous a apporté. Et ça, c'est un peu dommage.
À 60 secondes de jeu, il se fait faucher sur la ligne de touche par Fernandez.
Ouais, Mais ça, mais ouais, encore une fois, c'est aussi l'arbitre, à l'arbitre tout de suite de calmer le jeu, de dire que ça fait que le match vient de commencer et tout, mais encore une fois, on n'est pas avantagé sur ce coup-là, on l'a vu sur Verratti aussi, donc voilà.
Bah, du coup, donné mes flaps. T'es top et flop, du coup, vu que t'attendais un petit peu, désolé, sur
l'ordre. Non, t'es pas chanceux. Alors, moi, mes top, assurément Donnarumma. Et Donnarumma, il y a un théorème simple. Tu sais que Donnarumma fait un top match quand il n'y a pas de facecam sur Navas. Quand il ne faut pas de facecam sur Navas, c'est qu'il a fait un top match. Et ce soir, je n'ai pas vu Navas une fois. Donc, c'était une masterclass de Donnarumma. Et Donnarumma, il sort des arrêts décisifs. Et moi, parfois, Donnarumma, je dis parfois, il peut être très fort. Et en parallèle, ça peut être Avrel dans les Dalton, dans le sens qu'il peut être un peu débile, cette sortie de balle. Aujourd'hui, il a été intelligent. Il a été d'une sérénité que
j'ai beaucoup aimé. Il n'a pas fait ces trucs débiles, balle au pied, d'ailleurs.
Non, il a été simple, balle au pied. Il ressortait en une touche. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que Donnarumma, parfois, il pense qu'il est milieu. C'est-à-dire que c'est un gardien, il sort, il joue en deux, trois touches. Là, il a joué en une touche. Il a évité au maximum de sortir. Il a fait confiance à sa défense. Et quand même un shout-out, comme ils disent nos amis canadiens, à la défense, parce que quand même, ils se sont parlé, lui et Donnarumma. Il n'y a pas eu de bug. D'habitude, il y a toujours des bugs où Donnarumma, il dit à Marquis, non, mais je suis dessus. Là, ça va. Franchement, ça va. Et donc, ce que tu peux ressortir de très positif de ce match-là, c'est que la défense et le goal, ils commencent à avoir des automatismes. Bon, je sais que c'est un peu grave de dire ça alors qu'on est en octobre, mais c'est toujours ça de prix. Donc, Donnarumma, bon match de Donnarumma. J'espère qu'il va asseoir sa domination en tant que goal et qu'on ne verra plus de facecam de Navas. Voilà. Navas, merci pour les travaux.
Alors, Itch, voilà. Y a une version française, ça shout-out, si tu veux, ça se dit SO, si tu écoutes Frisk Orléans, comme ça les gens ils comprendront.
Ouais, mais je connais. Vas-y, je te laisse continuer. Là, je mets du Frisk Orléans, je me fais contrôler tout de suite. Arrête un peu. Voilà. Et mes top, oui, Vitinha, moi j'ai beaucoup aimé Vitinha. Vitinha, c'est un peu ce stagiaire en entreprise qui arrive, qui est timide, et progressivement, bah, du coup, il prend du poste. Et son tuteur, c'est sûrement Verratti. Le match de Vitinha, il est plus scolaire. Il est plus scolaire. Il a de l'audace. Vitinha, il a de l'audace. Vitinha, il s'arrête de dribbler, il change d'aile comme il est audacieux. Et moi, j'aime beaucoup l'audace. Donc, Vitinha, ce match-là, il fait un match. Il n'est pas encore bankable, hein, Vitinha. Il n'est pas encore bankable. Hein. Mais Vitinha, quand il va être bankable, lui aussi, on va demander son extrait de naissance. Parce qu'il a quel âge, ce mec? Parce qu'aujourd'hui, il a joué comme un vieux de 32 ans. Je suis désolé. Hein. Il a joué, il a réorienté, il a été intelligent. Et l'équipe adverse ont compris que Vitinha, il faut le bloquer. Vitinha, il faut le bloquer. Donc Vitinha, bon match de Vitinha. Bon match de Vitinha. Et également, un troisième top, moi, c'est Nuno Mendes. Nuno Mendes, moi, je suis désolé. J'ai envie de m'étrangler.
Nunoki,
Nunoki, mais Nuno Mendes, il est nul, nous on a mieux.
Nunoki,
Nunoki, c'est un S, pas un Z.
On va te redonner le discours du portugais d'espagnol, mon pote.
Mendes, pas Mendes.
Mendes, Mendes, Mendes. Ah les gars, on parle d'un mec,
qui a dit Gabriel Jesus et Joao Félix quand même. Donc ne soyez pas si étonnés qu'il dise.
Ah moi, c'est Nuno Mendes, il est le problème. Donc Nuno Mendes.
Ah ouais, tu dis Eva Mendes alors. Tu dis Eva Mendes aussi. Hein. Tu dis Eva Mendes. Hein.
Non, j'ai Eva Mendes. Eva Mendes.
Ah, voilà, donc Nuno Mendes.
Bah, Nuno Mendes. Nuno, je vais appeler Nuno. Voilà. Nuno, excellent match de Nuno. Moi, je suis désolé. En fait, Nuno, il enchaîne tellement les bons matchs que ça passe inaperçu. On a l'habitude. Moi, ce qu'il fait sur le côté, c'est talentueux. À un moment, il est face à deux joueurs. Je me dis, c'est mort. Il arrive à gagner la faute. Mais Nuno, moi je suis marocain, donc ça me frustre un peu. Mais c'est en ça, Hakimi, parfois, il n'est peut-être pas au niveau offensivement, parce que Hakimi, moi je le connais, Hakimi, sa force, c'est la vivacité, c'est le fait que, oh, il n'est pas espagnol, ça y est les gars, on dirait ça, vous avez fait le B2 espagnol au collège, vous me donnez la morale. Vous me faites la morale.
Il débite.
Ah oui, je débite, c'est mon tour. Tu crois que je vais faire un roi du silence? Bah oui, je débite.
Il y a des choses à dire.
Je débite. Non, donc Nuno, excellent match. Nuno, excellent match. À la fois dans la percussion, à la fois dans. À chaque fois qu'on l'a trouvé, il était dangereux. C'est simple. Voilà. Donc, excellent match de Nuno. En tant que flop.
Demande-lui de lever ses ballons sur les centres, s'il te plaît. C'est tout ce qu'on lui demande.
Oui, après, voilà. Hakimi, il élève trop. Lui, il les met trop bas. Mais c'est un juste milieu à trouver. Il faut faire des ateliers. Du coup, pour les flops, déjà, Danilo, je ne le mets pas en flop. Danilo, moi je suis désolé, Danilo, c'est pas un joueur bankable, Danilo. Danilo, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, déjà la présentation, elle manquait d'audace. Ils lui ont fait une vieille présentation, et c'est pour ça qu'il n'est pas bankable ce joueur-là. Parce que le centre qu'il reçoit, déjà, Marquinhos, elle rase la tête de Marquinhos l'a pas. le joueur il est entre Marquinhos et Danilo, ça va vite, ça va vite. Donc c'est pas un but contre son camp comme c'est pas une erreur manifeste. Donc Danilo c'est pas flop. Mbappé c'est flop. Mais Mbappé c'est flop pourquoi? Parce que Mbappé Benfica va aller loin en Ligue des Champions, retenez ça, lui
faut pas faire moi chez lui.
Ouais, mais Naples est très très méchant, mon pote, je te le dis.
Naples est méchant. Non, Naples est méchant, je dis pas le contraire.
Naples est très méchant, mon pote.
Non, Benfica, je suis désolé. Benfica aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ça se gère pas. C'est pas le Benfica qui fait un très bon match. C'est que le Paris Saint-Germain, ils font pas un bon match.
Le quoi?
Dans le mental. Non, mais Benfica, mais je suis désolé. Moi, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils doivent gagner.
Sérieux,
le Paris Saint-Germain, c'est normal qu'ils battent pas Benfica.
On va jamais finir.
Je finis sur mes flops. Moi, je suis le PSG, normal, ils doivent pas le Benfica. Il n'y a pas de.
Bene.
On peut prendre la Ligue des Champions, c'est pas normal. Voilà. Au bout d'un moment, il faut parler en tant que champion, en tant que contender. C'est pas normal.
C'est quoi? C'est quel club?
Du coup, en tant que flop, je vais finir sur les flops. Donc moi, Mbappé, pour moi, c'est un flop. Mais pourquoi c'est un flop? Parce que Mbappé, aujourd'hui, Mbappé, c'est un prétendant au Ballon d'Or. C'est un prétendant au Ballon d'Or, Mbappé. On le sait et il le sait. Donc quand il a les notifs de but de Haaland, il met un doublé, il sert dans sa tête. Il sert parce que Mbappé, on voit dans son interview
que Thierry Henry. Tu penses pas que c'est un peu plus compliqué que ça, Hitch? Tu penses pas que c'est un peu plus compliqué?
Non, c'est pas un peu plus compliqué que ça. Barry, il est mort de rire. C'est pas un peu plus compliqué que ça. C'est que Mbappé, actuellement, dans son statut, dans sa prolongation, il veut être au centre du projet du Paris Saint-Germain. Ouais. Et je suis désolé, Mbappé, il aspire au Ballon d'Or. Donc Mbappé, il veut tirer la lumière sur lui. Et moi, je suis désolé, Mbappé.
Hitch, est-ce que ça a été fait? Pose-toi la question. Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'il est vraiment au centre du projet? Est-ce que les déclarations de Paredes ou d'autres qui ont parasité un peu, qui ont dit oh, en limite, ils connaissaient pas Mbappé. Oui. Est-ce que tu penses que dans le vestiaire, ça se passe forcément bien?
Ah, je suis désolé.
Je dis pas que c'est pas que de sa faute. Mais,
non, mais c'est un sujet qu'on a.
Non, mais
mentalement, je suis désolé.
Mais pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Alors, sur son premier match de City, il a été traité de tocard par toute l'Angleterre. Les tabloïds anglais, ils sont beaucoup plus méchants que.
Tu fais semblant de pas comprendre. Il y a une différence entre si tes coéquipiers dans ton vestiaire vont te soutenir, vont t'aider à te faire briller, et si tu es esselé dans ton vestiaire.
Mais Mbappé, il brille. Mais on peut voir juste les passes décisives entre Messi, Mbappé et Neymar. Mbappé, c'est le joueur le plus servi du Paris Saint-Germain. Un joueur qui est au centre du projet. Et le problème, c'est qu'Mbappé, actuellement, il a des problèmes d'ego. Parce que c'est pas du cuit football, il est intelligent.
T'as écouté la déclaration de Campos?
On parle pas d'arbitrage, Néru, je suis désolé. Interview. Parce que c'est toujours un manque. Il y a toujours un peu de subjectivité et on ne veut pas, parler d'arbitrage.
T'as mis du temps, hein. T'as mis
les
du
gars,
temps,
laissez-le finir ses flops, s'il vous plaît. Ça fait 1000 ans, on est dessus.
Ça fait, moi j'ai dit, moi, Mbappé, flop.
Mais moi, j'ai même pas donné les miens, tu sais.
Et après, il y a tonton qui doit les donner, c'est pour ça.
Non, mais j'attendrai, termine.
Ouais, donc Mbappé, flop, et après, en vrai de vrai, j'ai pas vu d'autres flops violents comme. Moi, c'est vraiment Mbappé qui m'a saoulé. Donc,
Et Galtier, ça vous gêne pas,
Mais Galtier, ça vous gêne pas.
Tu dis qu'il fasse quoi, bon, voilà. Mais
toi, à la place de Galtier, t'aurais fait quoi? Je t'écoute.
Finis tes top et flop.
Voilà, donc c'est fini, je m'arrêterai à Mbappé.
Vas-y, tonton, parce que sinon on va jamais finir.
Alors, attends, juste déjà, Mauricio, lâche cet écran, on t'a reconnu là. On sait que c'est toi derrière ce compte. Personne ne dit ça, à part Mauricio Pochettino. Il n'y a que lui pour dire ça.
À part d'un autre bug, elle a dit Pochettini, wesh. Avec quelqu'un d'autre, wesh. Vas-y, finis, tonton, comme ça, on a fini
les top et flop. Moi, ce qui me concerne les top et flop, je vais y aller plus vite. Je vais forcément mettre Donnarumma, s'ils arrêtent des arrêts décisifs, une très bonne attitude, pas de fioritures, ballon au pied, pas de bêtises, pour une fois, serein. Zéro reproche à lui faire, et ça fait plaisir. Donc, tant mieux de mettre Donnarumma en top, ça fait un moment que je voulais faire. Je vais mettre ensuite Vitinha, je ne vais pas être très original, hein. Vitinha qui, malgré son arrivée cet été, donne l'impression d'être au club depuis déjà 8 ans. Super intéressant, ballon au pied, vraiment, j'ai beaucoup aimé son attitude. Et après, ben, je vais me permettre un troisième top. Je vais mettre Léo Messi, que j'ai beaucoup aimé quand même, parce que il a mis quand même un sacré golasso dans une période où c'était compliqué pour le PSG. En plus, on ne dominait même pas au moment de gagner. Et qui aurait pu même se retrouver avec des caviars et des passes décisives, en fait, si on avait eu plus de chance face au but. Donc, Messi, comme je le disais l'an dernier, il n'avait rien à faire sur l'aile droite. Il joue dans l'axe et ça se ressent beaucoup plus dans l'impact du jeu, son rôle du numéro 10. Alors, ce n'est pas encore un match de Messi saison 2012-2013 où il fait sa fameuse année à 92 buts. Mais on est sur un Messi quand même d'un très bon cru et c'est cool d'en profiter. Et au niveau des flops, j'allais vite aussi, je vais mettre Ramos dont je n'ai pas été le plus convaincu, mais en même temps, Ramos s'est retrouvé avec un Rafa Silva qui a beaucoup dézonné sur son côté parce que Rafa Silva a beaucoup profité de sa vitesse et Ramos a eu du mal à le suivre. Donc, désolé pour lui, mais ce n'est pas pour autant que je lui jette la pierre aussi. Et je mettrai aussi en deuxième flop Neymar, mais c'est pas comme Ramos une insulte dans le sens où c'est Neymar, donc tu t'attends toujours à un top match d'un top joueur. C'est pas non plus complètement de sa faute, hein, comme on dit, il prend pas mal de coups dès le début du match. D'ailleurs, il s'est découpé sur la ligne de touche, on n'a même pas 60 secondes de jeu. Donc c'est pas forcément de sa faute, mais je m'attendais à un meilleur match de Neymar et un meilleur match de Mbappé également. Aussi, hein, faut le dire, hein, les... On verra pour Mbappé, parce que c'est un sujet qu'on a déjà évoqué sur la chaîne en plus, quelle place Mbappé dans le vestiaire. C'est Bastos et Dries qui s'en sont chargés. Donc je propose qu'on épilogue pas trop longtemps sur ce sujet.
Non, mais je suis obligé de répondre à ces commentaires. J'en ai marre de ces commentaires-là. Mbappé nous a rendu service la saison dernière, donc vous êtes dur avec lui. À un moment, les gars, quand on débriefe un match, quand on débriefe un truc, il faut être objectif. Et tu peux même, c'est comme si je te dis, oui, mais Neymar n'a pas été bon. Ouais, mais il était bon contre Liverpool en 2018. Les gars,
est-ce que tu te rappelles du match de Neymar contre Bayern? T'as pas le droit de dire que Neymar il a fait
un match. À un moment, attendez. Juste, je réponds.
Pas le meilleur du monde. Il a marqué.
Juste, je réponds à ça. Juste, je réponds à ça. Après, je donne la parole à Ken qui voulait parler de Galtier. À un moment, les gars, faut parler français. À un moment, tu débriefes un match. Faut arrêter de croire que quand on dit qu'une personne est en dessous, c'est qu'on lui tire dessus. Non, il était mauvais ce soir, on le dit. La saison dernière, Neymar était mauvais, on lui a tiré dessus. C'est normal. C'est pas lui tirer dessus, on débriefe un match. La vidéo s'appelle Paris Benfica PSG débrief. C'est ça le but. Tu débriefes. Il a pas été bon, tu le dis. Arrêtez de nous dire qu'à chaque fois qu'on dit
carrière de Mbappé, carrière de Neymar. Les
gars, à chaque fois qu'on dit un truc sur un joueur, t'as des mecs qui viennent dans les commentaires nous dire oui, mais vous êtes dur avec un tel. Non, on n'est pas dur. On débriefe son match. Il est bon, on le dit. Il est mauvais, on le dit, c'est tout. Arrêtez de nous casser les couilles avec vos commentaires.
Si vous voulez qu'on fasse des sujets spéciaux, qu'est-ce qu'on pense de la carrière de Mbappé, qu'est-ce qu'on pense de la carrière de Messi, Neymar, on a des commentaires, vous interagissez sous la vidéo et vous dites on aimerait que vous parliez de la carrière de Mbappé.
C'est que nos supporters, ils peuvent être à l'extrême. Moi, je suis désolé, nos supporters, ils peuvent être à l'extrême. Il y a des supporters qui vont dire Neymar, il est nul, il est claqué, mais tout le temps. Neymar bashing, Mbappé bashing. Des supporters qui vont dire oui mais Neymar ils sont un peu Bambi dans leur tête. Voilà, c'est Disney, c'est pas grave, il était un peu fatigué. En fait, au bout d'un moment dans un club, il faut être critique. Et si nous on n'est pas critique, qui va l'être? Sachant que nous à la base, c'est un type de supporter.
Surtout que c'est un critique objectif, tu vois. C'est pas en mode on lui tire dessus pour lui tirer dessus en disant que lui c'est mauvais. Il dit juste que là il aurait pu faire ça ou il aurait pu dire ça, tu vois.
Non mais c'est relou.
Après,
en fait, t'as vu Ali. En fait, Ali, si je dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce que ça commence à me saouler. Tu vois, quand je prends. Tu vois, quand je dis que Neymar fait un bon match, on me dit je suis un pro Neymar. Quand je dis que Mbappé fait un bon match, je suis un pro Mbappé. Et donc, quand tu rentres dans ces cases-là, tu ne peux pas dire que Neymar a fait un mauvais match. Tu ne peux pas dire que Mbappé a fait un mauvais match parce que c'est Neymar et Mbappé et on ne doit pas parler d'eux. À un moment, il faut arrêter. S'ils ne sont pas bons, ils sont pas bons. On le dit. Bref, je laisse ta parole à Ken parce que.
Je les vois comme. Vous vous rappelez la saison dernière, Navas, il se pose un carton rouge, il sort sous le Sedigo Echet.
C'est un truc de ouf, les gens, c'est des oufs, c'est des fous. Bref. Je voulais juste donner la parole à Monsieur Ken par rapport à Galtier, du coup, qui avait l'air intéressant en plus.
Ouais, non. Après, encore une fois, moi, je suis pas un gros suiveur du PSG, les gars, mais quand même, je suis assez souvent vos matchs. Moi, j'attendais de Galtier, c'est qu'à un moment donné, quand il voit que son système ne fonctionne pas, qu'il est capable de modifier, de trouver un autre système hybride en cours de match. quand tu vois que ça ne fonctionne pas offensivement avec les trois, tu as quand même des joueurs relativement intéressants techniquement à ta disposition. Tu as quand même un Fabian Ruiz, tu as un Soler, tu as quand même Hugo Ekitike, même si c'est, il est encore tendre, il est encore jeune, tu peux le mettre sur un système, sur un 4-4-2. Vitinha a déjà joué sur un 4-4-2, notamment au FC Porto. Moi, je pense que, alors, soit il ne le travaille pas, ou soit il est obligé justement de s'adapter aux joueurs qu'il a, parce qu'il y a, cette complexité de gérer ces fameux trois joueurs de devant. Donc moi, j'attends de Galtier. Encore une fois, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends, c'est que Galtier et Campos sont là pour révolutionner quelque chose. Et on voit encore une fois qu'il y a des changements qui sont tardifs. Qu'on ne me sorte pas encore l'excuse, tu veux qu'il fasse quoi ? C'est lui l'entraîneur, il a des joueurs à sa disposition, il doit trouver les solutions. C'est ce qu'on demande à un entraîneur. C'est tout, à un moment donné. Au moins qu'il essaye, qu'il tente.
Tu prévois pas la blessure de Messi ? Tu vois ce que je veux dire? On va pas te sortir peut-être le mec qui t'a passé le plus offensivement.
Messi ne sort jamais s'il ne se blesse pas. T'as Mendes, bon, il se blesse, on ne sait pas, est-ce qu'il l'aurait changé à un moment donné par rapport à Bernat parce qu'il se blesse pas trop tard dans le match. T'as quand même des changements relativement très tard, je suis désolé. Et à un moment donné, ça va tirer sur la corde. Ça va tirer sur la corde aussi à un moment donné.
Si tu regardes bien, là où je regarde quand on marque le but, que fait Galtier? En fait, le truc, c'est que tu peux
donner autant de consignes
que tu veux. Non, mais tu peux donner autant de consignes que tu veux, comme l'a si bien dit Barry. Quand tu te retrouves sur un terrain, il y a des moments où tu penses pas à ce que t'as dit l'entraîneur il y a 20 minutes. Tu vas penser à ce que, à l'instant T.
C'est quoi le problème? Là, je te parle de l'entraîneur.
Non, tu me parles de l'entraîneur, mais même si demain je suis entraîneur, je vais dire, je sais pas quoi, ce que tu veux, que ce soit même un champ. Tu veux faire un changement, je suis d'accord avec toi. Tu peux faire un changement. On fait un changement sur, je crois que c'est Vitinha qui sort, on met Ruiz. La mobilité entre Vitinha et Ruiz, elle est énorme.
Et je te demande pas,
Oui, mais du coup, tu veux changer quoi? Le mais système
Ali,
de jeu?
Non, mais Ali, écoute juste ce que je te dis pas forcément de sortir un milieu pour un milieu. Tu peux rajouter un milieu de terrain et changer ta
composition. Donc un système de jeu. Voilà, oui. Ok, ta composition, ton système de jeu. D'accord, là, je suis d'accord avec toi. Et si tu te souviens, au début, je te l'ai dit, le problème qu'on a et qu'on laisse là où on va jamais.
Mais t'as aussi des consignes pour moi qui t'as aussi des consignes. Je suis désolé. Ouais. Tu as Hakimi, Mendes, tu peux pas les laisser autant inoffensifs offensivement. Je sais pas s'ils sont bridés parce que tu dois à tout prix faire briller.
C'est là où je suis d'accord avec toi et je te dis que le système il est un peu relou parce que du coup nos pistons ne sont pas assez utilisés puisque t'as Neymar et Mbappé ou Messi qui vont s'écarter à la mort. On l'a vu sur une occasion à un moment donné, je crois qu'il y a le dédoublement de Nuno Mendes et tu vois Mbappé au lieu de se raxer dans l'axe.
Ils sont pas servis.
En fait, si, parce que oui, mais ils sont pas servis. Pourquoi? Parce que Mbappé, Neymar ou Messi se retrouvent toujours excentrés, trop proches de
Messi. Ils veulent pas aussi aller. S'ils avaient l'intelligence de redescendre pour justement distribuer une passe à leurs latéraux, à leurs pistons qui font sans arrêt des appels pour la plupart du temps, eh ben tu verrais que tu apporterais beaucoup plus de danger et une variation dans ton jeu. Et tu n'as pas de cette variation-là. Donc à un moment donné, ce que je demande à un entraîneur, et c'est ne serait-ce que tu constates que ça va pas forcément marcher, et ben tu tentes, tu te plantes, ok, mais tu tentes, et ça fait beaucoup de matchs qui ne tentent pas, Galtier, c'est ça le problème.
Mais
donc les gars, si on n'a pas plus de sujets de live, je vous propose, je vous laisse rajouter une dernière chose, chacun votre tour sur le match, sur un truc qui vous a plu, ensuite on clôture à live, si c'est plutôt que de revenir en arrière à recommencer le débat. On va tourner en rond, les gars. Donc, vas-y,
juste sur Galtier, déjà la première chose sur le système de jeu, je pense que au-delà du fait que le Paris Saint-Germain ait demandé à Galtier de mettre ce jeu en place là, je pense que le Paris Saint-Germain a envie d'adopter le 3-5-2, que ce soit au niveau de la formation et ensuite devenir leur système de jeu référentiel, comme le 4-3-3 allait à Barcelone et comme d'autres clubs ont des trucs préférentiels. Donc ça c'est la première chose. Ensuite le 4-4-2 en cours de jeu, ça je suis d'accord avec vous deux. Je trouve qu'on n'a pas assez de profondeur de tactique en cours de jeu et c'est un problème. Ça je l'avais déjà
dit. Tu as un problème de profil aussi.
Non mais pas. Franchement pour mettre un 4-4-2 en place, t'as les profils. Il te manque juste un profil, c'est le pivot.
Un vrai point d'ancrage.
Et encore. Il y a plein d'équipes qui ont réussi à le faire sans plan d'ancrage. Et moi, je te dis, tu mets un 4-4-2 avec Messi en pointe et une double pointe Neymar-Mbappé, ça fait très mal. Tu vois? Donc ça, c'est la première chose. Mais voilà, mais oui, globalement, oui, je pense que au lieu de miser, de maximiser à chaque fois le 3-5-2 et donc d'aller chercher que des joueurs pour ce système-là, il faudrait peut-être se dire qu'en cours de jeu, tu pourrais peut-être passer soit en 3-4-3, soit en 4-3-3, soit en 4-4-2. En tout cas, changer de système pour changer ton animation et donc obliger l'équipe en face à changer de structure d'équipe. Globalement, le match, pour revenir un peu, je l'ai trouvé assez intéressant. Il n'a pas été si dégueulasse que ça. J'ai aimé la prestation de Benfica. J'ai quand même aimé la prestation du Paris Saint-Germain, même si à certains moments, je l'ai trouvé frustrante. Il y a des joueurs qui ont été frustrants, mais la seconde période était plaisante à voir. De la 25e minute à la 36e, 37e, le Paris Saint-Germain a déployé un jeu très intéressant. Donc non, je pense que voilà, globalement, le Paris Saint-Germain a montré des choses. Mais on sent une équipe qui, d'un côté, monte en puissance, mais à certains moments, on commence à voir des lacunes un peu physiques. Pour revenir un peu sur le cas Kylian Mbappé, après, je rends la parole. Kylian Mbappé nous l'a souvent fait, ça. Débuter de manière compliquée, pourtant continuer ses stats. Je prends la saison où il termine le Barça, où il termine le Bayern. Bah, son début de saison était, on va dire, catastrophique, entre guillemets. J'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à avoir les trois au même niveau, au top niveau, au même moment. Il faudra se séparer d'un des trois à un moment. Mais pour le moment, voilà, la structure d'équipe est comme question. Ça. J'attends le mois de janvier. Moi.
Est-ce que Ken, tu voulais du coup, j'ai une question. Ouais, comment juste après, moi sur Mbappé, et après, parce que du coup, sur le sujet d'Mbappé, après, je m'arrête. Donc, le gros problème à Mbappé, c'est qu'il a toujours pas compris qu'il était plus dangereux quand il part de 2-3 mètres en arrière et qu'il rentre entre le latéral et l'axe et le défenseur axial que quand il part de derrière. Donc, c'est-à-dire s'excentrer sur le côté et rentrer dans l'équerre de la surface. Mon gros problème avec lui, c'est que le jour où il comprendra que tu as un joueur comme Messi ou Neymar qui peuvent te mettre des caviars entre entre cet appel-là, on sera vraiment beaucoup mieux sur l'apport complet de l'équipe, que ce soit sur les pistons qu'on va beaucoup plus jouer puisqu'on va se servir de l'appel de Mbappé pour prendre cette profondeur qu'on attend, comme Monsieur Kane attend, de changer un peu cette tactique, de jouer pas que dans la verticale, mais aussi de savoir jouer sur les pistons. Mais notre plus grand problème, encore une fois, c'est que ce Mbappé n'a pas compris que là où il sera le plus performant, c'est quand il rentre entre le latéral et le défenseur, que ce soit axial gauche ou axial droit. Et quand il aura compris ça, je vous jure, on l'a vu l'année dernière, comment il était très, très fort quand il prenait cette profondeur-là. Là, il attend balle au pied, il attend de faire son geste technique pour frapper à la Ronaldo. Non, ça y est, frérot, t'es un autre joueur, t'as un profil bien différent, t'es bien plus performant en termes de vitesse actuellement. Fais ce que tu as à faire dans cette profondeur. Tu as le physique, tu as les épaules, tes techniques. Fais-le comme ça, tu sais très bien faire. Tu mets à la main tous les défenseurs en vitesse et utilise-la. Et prends ton appel de 2-3 mètres en arrière. Si tu veux rentrer sur le côté gauche et après piquer dans l'axe, fais-le. Mais là, il attend le ballon dans ses pieds et c'est le plus gros problème de Mbappé. Il ne prend pas assez en profondeur comme l'année dernière. Et c'est pour ça que je te disais que sur ma part.
Tu voulais rajouter une dernière chose avant
ouais,
que tu
rapidement. Non, après Mbappé, oui, je suis d'accord qu'il est dangereux, c'est 2-3 mètres, mais après aujourd'hui, quand même, défensivement, l'équipe adverse, vraiment, quand même, ils ont été très intelligents dans le sens qu'ils n'ont pas laissé démarrer. Donc, déjà, c'était un peu compliqué pour lui. Maintenant, ça n'explique pas son mauvais match. Pour moi, c'est un mauvais match. Maintenant, si on peut finir sur une note positive, on peut trouver la note positive qu'on peut trouver, c'est que certes, ce 3-5-2. Ils n'utilisent pas toutes les lignes d'attaque, dans le sens qu'il y a toujours un déséquilibre, ça passe souvent par le centre, souvent par la gauche, pas assez du côté droit, il y a toujours un déséquilibre. Maintenant, moi, défensivement, en communication avec le gardien, notamment avec la prestation de Donnarumma qui a été bon, et notamment avec Donnarumma qui a été bon sur ses sorties, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que la défense commence vraiment à trouver un lien avec le gardien, c'est intéressant. Et je pense que ce 3-5-2 de Galtier, il faut le prendre puzzle par puzzle, il ne faut pas le prendre d'un coup. Donc aujourd'hui déjà, il y a quand même une sérénité entre le goal et les défenseurs. Bon, ils se font surprendre sur une action, c'est vrai. Une action qui a été quand même rondement menée. Voilà. Le Paris Saint-Germain, match nul, c'est pas alarmant. C'est pas encore alarmant, même s'il y a des points quand même à discuter. Maintenant, je pense qu'ils se font surprendre au bon moment. C'est le début de la Ligue des Champions. Ils se font surprendre au bon moment. Donc on espère qu'ils vont rebondir. Voilà, c'est tout.
Je vais laisser Ken ajouter quelque chose.
Alors, je finirai par le
commentaire. Solaire, c'est vrai que Solaire, il faut en parler un peu, Solaire. C'est vrai que Solaire... parce que Solaire, c'est beaucoup plébiscité dans les commentaires. Donc, je suis obligé de l'aborder. Parce que j'ai vu quand même 5-6 commentaires qui parlent de Solaire.
Parle à ton coach.
T'inquiète. Je l'évoquerai après. Vas-y, je vais essayer d'en ajouter quelque chose.
Ouais, je reprendrai le commentaire de Patrick Foucault qui a dit ce que j'ai dit tout à l'heure ou ce que j'ai voulu dire. Campos l'a déjà dit, les gars, superposition entre Neymar et Mbappé. Il l'a bien mentionné durant son interview avec, avec Jérôme Rotten, je crois, dans Rotten sans flamme. La vraie problématique, c'est ce positionnement avec Neymar et Mbappé. Et bien sûr, l'animosité qu'il peut y avoir dans les vestiaires, on sait très bien que Mbappé est un peu... esselé et un peu seul. Et alors, je ne dis pas qu'il est, bien sûr, qu'il n'est pas fautif de cette situation. Je pense qu'il a un ego surdimensionné lui également. Mais il y a un gros problème qu'il a mappé dans le vestiaire et aussi de profil de joueur. Voilà.
Après Mbappé, je suis désolé parce que Mbappé fait un mauvais match ce soir. Mbappé fait un match où il y a des problèmes d'ego. Après, je trouve quand même qu'on n'a peut-être pas assez d'informations dans le vestiaire pour savoir ce qui se passe, etc., etc. Je pense qu'il a un problème d'ego, c'est vrai. Mais après, quand même, il y a quand même. Je ne dis pas que c'est le cas de Ken. Rien à voir. Franchement, je ne dis pas que c'est le cas de Ken. Et je pense que déjà, ils ont été beaucoup plus virulents que Ken. Mais quand même, un petit problème de Mbappé bashing. Dans le sens que Mbappé.
Ah non, non, moi, je ne le bâche pas du tout. Au contraire, on lui a promis des choses. Le club lui a promis des choses. En tout cas, c'est quand même avéré que le club, de base, a tout fait pour le garder, pour qu'il soit au cœur du projet. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à virer certains joueurs, dont. Je pense Neymar. Neymar, je pense qu'il était vraiment indésirable.
Oui, après, il était vraiment indésirable, c'est sûr. Après, la situation d'Mbappé, on a des images juste récemment où Mbappé et Neymar rigolent. On a Mbappé et Hakimi qui sont. Ils sont voilà. Donc, parfois même on surenchérit sur leur relation. Ils sont vraiment potes. Donc voilà. Donc, après. Mbappé, il y a certains. Je ne dis pas que c'est. Il y a certains supporters quand même qui. Parce que c'est du bankable un peu de. Ça fait rire un peu de dire Mbappé, Melon, Mbappé, etc. Donc, il y en a quand même pour les likes et pour les stats, quand même, ils tirent beaucoup sur Mbappé. Mais néanmoins, alors, le match d'Mbappé, aujourd'hui, était rempli d'égo.
Plutôt que de tourner en rond sur Mbappé et de revenir encore en arrière sur des sujets qu'on a déjà tranchés, tu évoquais toi-même le sujet Carlos Soler qui est très abordé dans les commentaires. Pour répondre rapidement sur Carlos Soler, avant de conclure ce live qui est quand même un peu plus long que d'habitude, je dirais Carlos Soler, tout simplement, si tu regardes, il arrive le 31 août, enfin 31 août même pas, il arrive dernier jour de Mercato, donc c'est pas comme si c'est un joueur dont tu as entendu parler tout l'été. D'ailleurs, tu n'en as pas du tout entendu parler avant qu'il y ait les négociations qui se font, donc ce n'était pas une priorité. Je pense que c'était plus une opportunité parce que les tractations avec Fabián Ruiz ont été très longues, tout comme celle de Renato Sanchez. Et je pense que comme tu t'es dit que tu n'arrivais toujours pas à faire Skriniar, mais le fait de faire un Soler, au cas où tu ne pouvais pas jouer à 3, derrière tu pourrais passer à 3 au milieu, parce que Carlos Soler, c'est un profil de milieu dans un milieu à 3, comme Fabián Ruiz au passage. Mais du coup, quand tu fais ces deux recrues, les deux recrues arrivent dernier jour de Mercato, c'est plus une opportunité qu'une réelle volonté. Et moi, je le vois comme ça concernant Carlos Soler. Je vous laisse chacun votre tour et dans l'ordre des caméras. Et du coup, je commencerai par Ken, évoquer ce que vous pensez du cas Carlos Soler et après on conclura ce live.
Oh, moi, ça va être très rapide. C'est pas un joueur que j'ai forcément vu jouer. Il était à Valence, il me semble, c'est ça, en Espagne.
À Valencia, si.
Voilà, donc je ne vais pas trop je vais pas faire le gars qui le connaît. Maintenant, je pense que néanmoins, il doit avoir certaines qualités pour que Campos le supervise et qu'il il l'a amené au PSG. Voilà, tout ce que je demande, c'est qu'à un moment donné, s'il est pris, fais-le jouer. Quoi. À un moment donné, on ne pourra jamais valoir son réel niveau s'il ne joue pas. Voilà, c'est tout.
Tu peux le voir en Espagne et si tu as regardé Valence. Mais vas-y, Ali, qu'est-ce que tu penses, toi, de la situation de Soler au PSG?
Alors, la situation de Soler au PSG, c'est que voilà, c'est qu'on l'a ramené pour être la doublure de Messi. Actuellement, Messi, c'est compliqué de le faire sortir. On ne va pas revenir dessus. du coup, Carlos Soler, il aura du temps de jeu nécessairement, mais après, c'est vrai que c'est une situation qui est compliquée. C'est un problème de riche. C'est-à-dire que déjà, à partir du moment où tu ramènes un joueur pour être une doublure, voilà, c'est un peu
compliqué. Tu l'as même pas pris pour des matchs de Ligue 1 comme Reims.
C'est un problème de riche.
Il y a encore un petit truc aussi, parce qu'on oublie un truc, c'est que je pense qu'il y a une annonce qui a été faite, je crois, et je ne sais pas si vous avez fait attention par rapport à Ruiz et Soler qui étaient déjà. Mis au courant qui serait beaucoup plus utilisé dans la rotation après la CDM. C'est-à-dire que là, on est déjà en train de préparer. Et si c'est écrit, après, on verra bien. Okay, on ne peut pas le nier.
Ah, mais oui, mais je trouve ça ridicule.
Bah, Bah, je pense pas, parce qu'ils ont besoin de se préparer, les joueurs ont besoin de se préparer, dont des mecs comme Messi et Neymar qui, eux, sont, entre guillemets, l'élite de leur équipe, c'est-à-dire que c'est quand même leur, les phares de leur équipe nationale. Et je pense que de les bien les préparer et tout, c'est une des options qui a été mise en place, je pense, par.
Donc tu fais pas jeu solaire toute la première partie du championnat et après tu le fais jouer.
C'est pas que tu le fais pas jouer, mais je pense que c'est dans une rotation.
Carlos Soler, il joue en sélection espagnole. Là, si ouais, tu le joues sur le banc, il va perdre sa place pour la Coupe du Monde. Donc, même pour Carlos Soler, en fait, je comprends pas la logique. Il peut perdre sa place en sélection à cause de ça.
C'est sûrement un choix fait, mais c'est sûrement un choix fait par Galtier Campos. De toute façon, comme le dit aussi bien aussi, c'est-à-dire que tu peux pas, aujourd'hui, tu sors qui ? Tu mets qui ? Je suis d'accord, il doit y avoir plus de rotation en match de Ligue 1. Mais tu sors qui ? C'est-à-dire que tu sors qui à ce moment-là ? Tu sors un Messi, ok, très bien, mais tu as besoin de jouer pour être prêt.
Mais ça, encore une fois, les gars, ça, c'est pas mon problème. C'est le problème actuel du PSG depuis tant d'années.
Oui, mais je suis d'accord. Sauf que du coup.
Voilà, donc à un moment donné, tu as une équipe. Ah, mais les gars, l'équipe aussi, c'est les remplaçants. À un moment donné, si Messi se pète et que tu n'as jamais fait, tu n'as jamais mis en avant un Soler ou un Fabian Ruiz un peu plus reculé, si jamais c'est un milieu de terrain qui se pète, comment tu vas savoir juger son réel niveau et il n'aura même pas de rythme au niveau en temps de jeu. Donc à un moment donné, mais je trouve ça totalement ridicule dans la gestion. Alors, je comprends que ce soit dur pour Galtier, mais qu'on ne nous vende pas la grande révolution, qu'on ne nous vende pas les changements, si c'est pour qu'au final, tu fasses rentrer un Fabian Ruiz à la 84e minute ou des conneries pareilles.
Je pense vraiment qu'on va en avoir à partir de pas longtemps. On va en avoir vraiment beaucoup de rotations, que ce soit sur.
Mais ils n'auront pas le rythme, Ali. C'est ça que tu comprends pas. Tu n'appuies pas sur un bouton pour que les gens aient le rythme.
Je sais, mais sauf que du coup, il va y avoir de la rotation comme tu attends. Je pense que c'était aussi un moment où il faut. Tu sais quoi, je pense à deux choses. Je pense qu'il y a les points en Ligue 1 qui étaient très importants de récupérer. Et du coup, ils voulaient faire jouer l'équipe type pour s'assurer ces trois points à quasiment chaque match. Et je pense réellement à partir du moment où il se sent, où il a peut-être pas mal de points d'avance sur le deuxième ou le troisième ou sur l'ensemble du championnat, il va y avoir une plus grande rotation. Je pense que là, il va y en avoir. J'espère que ça sera pas trop tard, du coup, pour Carlos Soler, parce que j'aimerais vraiment avoir plus de réflexion sur le joueur, notamment dans notre club et pas dans un autre club. J'ai vraiment besoin de voir. Comme je l'ai déjà dit sur la vidéo qui a sauté sur le Vitinha, le problème qu'il y a, c'est que même quand tu auras vu, et on l'a vu à un moment donné avec Fabien Ruiz, quand c'était Fabien Ruiz qui était à la place de Verratti, le très peu de jeu qu'il y a eu entre Vitinha, Ruiz et Soler, ça a un impact de fou sur le jeu. Tu as raison de le souligner, Kain. Okay,
Sarabia qui fait une magnifique saison sportive, mais il n'existe plus. Je comprends pas. Prête-le alors si tu ne vas pas l'utiliser. J'en sais rien. Mais c'est
non, parce que je pense que tu n'as pas les mêmes. Je veux dire, tu as la Ligue des Champions en première partie de saison, mais tu sais que la première partie de saison, ce n'est pas la plus importante. Tu dis que peut-être tu mets d'abord ton équipe titulaire dans un certain rythme, et après, dès que tu sais que le rythme est acquis, tu pourras faire tourner plus facilement. Exactement. Mais je vous propose qu'on aborde ces sujets dans d'autres lives et dans d'autres vidéos parce que le live est très très long. D'habitude, on les fait un petit peu plus court. Je voulais remercier en tout cas les 168 personnes qui ont assisté à ce live et qui ont eu la patience de tenir tout long. N'hésitez pas à mettre un pouce si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu et que vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci à Mr. Ken d'avoir été avec nous, et n'hésitez pas à le suivre sur Julien Le Gon, et vous le reverrez également dans
sur YouTube, bien sûr. Voilà.
N'hésitez pas à suivre Ali Ginola sur Twitter, et qui est Ali Ginola, comme tout le monde le connaît, et Itch, comme d'habitude, vous connaissez, vous commencez à avoir l'habitude de ces beurter les chats sur Twitch qui nous manquent déjà. Merci à tous d'avoir été présents avec nous, en tout cas. Mais reprends les beurter les chats, tu nous as promis, donc je ne te lâcherai pas là-dessus. Merci à tous d'avoir été avec nous.
Si jamais le PSG dépasse, ils arrivent en demi, on fera live de 2 heures. Mais abonnez-vous sur YouTube.
Mais abonnez-vous à toutes ces chaînes. Mais merci à tous d'avoir été présents avec nous.
Merci beaucoup.
Mais bonne fin de live à tous, et ici c'est
Ici c'est l'OL.
Oh la dingue!